12h-13h, France Bleu Lorraine Midi.
On rigole parce qu'en fait, Véro, ça la gonfle.
Mais non, j'aime bien. On me raconte des histoires. Là, je vais prendre mon pouce et puis mon petit oreiller. Puis vous écoutez. Bercez-moi, Jérôme, avec l'histoire de la Lorraine, s'il vous plaît.
On a donc laissé Stanislas hier. On savait quand il est tombé dans les pommes. Au moment où un messager est venu le prévenir que sa fille allait se marier, et qu'elle allait se marier non pas avec celui qu'il imaginait, c'est-à-dire le fameux et très laid duc de Bourbon. D'ailleurs, elle a quand même vachement gagné au change jour-là, Marie, puisque non seulement elle n'a pas épousé le Premier ministre boiteux, borgne et un peu laid, qui s'appelle le duc de Bourbon, elle va carrément épouser Louis XV. Louis XV, qui a 15 ans tout pile, quasiment, à l'époque. Elle en a 22, à l'époque, c'est normal, ce genre de rencontre. Il est magnifique, ce gamin, tout le monde le dit. Il y a des portraits de lui. On célèbre la beauté du roi un peu partout dans le royaume. Et donc, Stanislas vient d'apprendre dans son fameux landau que sa fille allait épouser le roi de France. Il a donc monté 4 à 4 les marches de la maison de Wissembourg pour dire à sa fille la phrase suivante: Madame, vous épousez le roi de France. Alors, Marie n'est pas tombée dans les pommes, mais la légende raconte qu'elle était en train de repriser une chaussette. Parce qu'il, rappelons qu'à l'époque, ils n'ont plus un copec, ils sont ruinés, ils vivent dans une petite maison bourgeoise. Ce qui, pour un ancien roi de Pologne, la Pologne faisait à peu près le double, voire le triple de la Pologne d'aujourd'hui, c'est quand même pas terrible. Toujours est-il que Marie va accepter, évidemment, la proposition qui lui est faite. Alors, je vous disais hier que ce qui va pas du tout passer, c'est le fait qu'elle est fille d'un roi de Pologne détrôné. Et ceux qui prennent très très mal la chose, ce sont les Français. Les Français de l'époque sont en colère. Ils comprennent pas pourquoi on va faire épouser le roi, un roi si important, à une fille de rien, disent les nobles. Certains vont répandre qu'elle est bossue, qu'elle est contrefaite, qu'elle a les pieds palmés, qu'on est obligé de vérifier l'état de ses pieds. Enfin bref, elle en prend plein la figure. Et ce qui est assez amusant, c'est que comme son père, elle est très mal accueillie. Vous savez que Stanislas, on en reparlera dans quelques jours, a été extrêmement mal accueilli en Lorraine. Les gens lui font la gueule, ils veulent pas lui parler. Et il a été... unanimement regretté une trentaine d'années plus tard quand il est mort. Marie d'Exinska, c'est exactement la même chose. Elle est alors, mais vraiment, rejetée par les Français qui considèrent que c'est une mésalliance. Et pourtant, ce sera l'image d'Épinal de la reine de France, à la fois tendre, assez belle, je dois dire, et généreuse. Alors, Marie, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va déjà commencer par s'habiller. Et comme elle n'a pas un sou, c'est le roi qui va tout payer. Hein, parce qu'elle apporte vraiment rien. C'est la première fois qu'on fait un mariage aussi pauvre à la cour de France. On l'habille de pied en cap et on l'emmène à Strasbourg. Elle a souhaité se marier le 15 août, le jour de la Sainte Marie, puisque c'est notamment son prénom. Donc elle arrive à Strasbourg, on sort les tapis aux fenêtres, on lance des fleurs sur son passage. Elle est célébrée en long, en large et en travers. Et alors, on envoie pour représenter le roi, une personnalité qui va être avec elle dans la cathédrale de Strasbourg au moment du mariage, représenter Louis XV, et alors le soir, mettre un genou sur le lit de la reine pour dire que ça y est, elle est ipso facto reine de France. Même si, on est bien d'accord, Véronique, ça va vous intéresser, il faut consommer la chose.
Ah bien sûr.
On ne peut pas...
Ça n'a aucun intérêt de se marier.
De se marier, on est bien d'accord. On va... bientôt y arriver, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'on met Marie dans un carrosse absolument sublime de Strasbourg, destination Fontainebleau. C'est là où elle va se marier une deuxième fois, mais cette fois officiellement avec Louis XV, qui est en train de se préparer, à qui on a d'ailleurs expliqué tout récemment les choses de la vie. Donc on lui explique comment faire, parce que on n'a pas envie que le roi se plante. D'ailleurs, on aurait dû le faire après, parce que on lui a raconté les choses, alors qu'on n'avait pas l'impression que c'était nécessaire, dans le sens où c'était le descendant de Louis XIV, et que Louis XIV, en la matière, a pas eu besoin qu'on lui explique grand-chose. Mais on aurait dû le faire pour son petit-fils Louis XVI, puisque rappelons que Louis XVI n'a pas compris pendant 7 ans comment ça marchait, il rentrait dans Marie-Antoinette et il bougeait pas. Il comprenait pas pourquoi il n'avait pas d'enfant. Il a fallu que le frère de Marie-Antoinette, Joseph II, vienne expliquer à Louis XVI et Marie-Antoinette réunis dans un petit salon de Versailles comment il fallait bouger en gros. Il y a une lettre assez amusante d'ailleurs de Joseph II qui explique à sa mère quand même, Marie-Thérèse d'Autriche, que donc le roi ne sait pas comment faire et il suggère l'utilisation d'un martinet. On va peut-être éviter de s'étendre sur ce genre de courrier. Toujours est-il que que Marie Leczinska monte dans son carrosse et elle part comme ça. Ça va durer plus d'une semaine son voyage parce qu'on est avant l'époque TGV, du TGV ou du Inouï comme ils disent maintenant. Elle évite la Lorraine qui d'ailleurs pas tellement qu'on est fâché, mais tout simplement que c'est une terre souveraine et indépendante et que ça la fout mal que la reine de France traverse un pays indépendant pour aller dans son propre pays. Donc elle va faire un petit détour. Elle passe par une espèce de chaussée, la chaussée de France qui traverse la Lorraine. Et alors son voyage, c'est l'enfer. Mais quand je vous dis l'enfer, il pleut à seaux sur des pluies d'orage comme on connaît en ce moment, à tel point que le carrosse de la reine bascule à un moment et qu'on a failli la noyer quand même. Ils l'ont retiré à bout de bras comme ils ont pu. Elle a laissé 2-3 diamants d'ailleurs dans le coin. On la remet dans le carrosse, on la rabiboche un petit peu dans tous les sens. Elle arrive à Fontainebleau, le roi est saisi d'admiration devant la beauté de sa femme. Alors, c'est vrai que quand on connaît la suite, nous on sait la suite de la vie des gens, mais eux le savent pas.
Bah oui.
Et alors, c'est une sorte de miracle, parce qu'on a jamais, on a rarement vu, en tout cas, un roi de France est amoureux de sa femme. C'est arrivé avec Saint-Louis, je crois, mais donc ça commence à dater à l'époque, hein, ça fait presque 600 ans qu'on n'avait pas vu ça. Donc, Louis XV tombe amoureux de Marie.
C'est la première fois qu'il la voit.
C'est la première fois.
Le jour du mariage,
elle descend du carrosse. Mmh. On a mis des tapis pour essayer d'éponger, parce qu'à Fontainebleau aussi, c'est une piscine. Donc, elle marche sur des tapis à Wattemille, tu vois bien.
Ouais.
Elle va jusqu'à la chapelle, qui est pleine à craquer. Elle a d'ailleurs été très courageuse, parce que tout le monde est admiratif du fait qu'elle porte la couronne et tout. Elle a, je crois, quelque chose comme 50 kilos sur elle, de tenue, de manteau, de brocart, d'hermine, etc. La cérémonie a lieu, le roi abrège la fin de la cérémonie. Pourquoi ? Parce qu'il a envie de passer aux choses sérieuses.
Mmh.
Et on sait, grâce à un monsieur, vous savez que les rois de France ne dormaient jamais seuls, ça n'est jamais arrivé. Ils avaient toujours quelqu'un avec eux.
Ah, c'est gênant.
Et en l'occurrence, on sait que, alors je cite la phrase, puisque Stanislas reçoit un courrier quelques jours plus tard, où on lui explique que non seulement la reine a beaucoup plu au roi, mais qu'il lui a donné, je cite, 7 preuves de tendresse dans la nuit.
Donc
il était plutôt content d'être à sa petite affaire, Louis XV. Et donc, du coup, ils auront ensemble 10 enfants.
Ah bah oui, c'est normal. Oui.
Un par an, à tel point que la légende nous dit, mais c'est peut-être pas forcément une légende, qu'un soir, Louis XV gratte à la fenêtre, à la porte plutôt, pour entrer dans la chambre de sa femme et qu'elle a oublié la clé volontairement dedans. La phrase aurait été et quoi, toujours couché, toujours accouché, ça n'est pas une vie. Bref, en tout cas, la voilà mariée. Stanislas, qu'est-ce qu'on va en faire? Bah on ne sait pas, on va lui trouver une sorte de petit studio pour dépanner.